La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bien, nous voilà pour la quatrième séquence sur la doctrine sociale de l'Église. Alors voilà, vous commencez à peu près à comprendre comment on arrive progressivement, mais tardivement finalement, à composer cette doctrine qui met en valeur l'action à la suite du Christ pour lutter contre la pauvreté et rentrer la question sociale dans l'Église. Alors on va essayer d'aborder l'histoire, les principes et les fondements de cette DSE. Donc je vais parler de DSE maintenant. Ce sera plus rapide, comme ça je pourrai parler plus longtemps. Alors pour se familiariser avec la DSE, on commence donc par poser les bases de son histoire. Si faire œuvre théologique nous invite à prendre de la hauteur et à penser l'acte de charité, que veut être la DSE dans ses enjeux, dans l'Église, ses perspectives et l'approfondissement de son enracinement de foi. Sa naissance, en fait, c'est la première encyclique, Rerum Novarum. Alors, Rerum Novarum, on en entend parler souvent, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et pourtant, c'est vraiment le point de référence qui délimite précisément le départ de la rédaction et de la formulation de la doctrine sociale de l'Église dans la tradition. Donc la DSE, l'originalité, c'est de se voir attribuer donc cette date de naissance en 1891, qui correspond à la publication de cette encyclique de Léon XIII, repérée par son titre latin Rerum Novarum. Elle est reconnue comme un point de départ, elle est devenue la référence moderne du début de la DSE. Raison pour laquelle elle a été reprise et actualisée en permanence par les différents souverains pontifes qui ont succédé à Léon XIII. La seconde originalité ressort du fait que la spécificité de la DSE, c'est la formulation d'une théologie en mutation permanente dans un jeu entre tradition et innovation sans rupture. Toutefois, il va sans dire, donc comme on l'a vu à plusieurs reprises, que la préoccupation sociale et politique de l'Église, son attention aux choses de ce monde, son souci pour la vie commune en société, se développe depuis aussi longtemps qu'existe le christianisme. La date de 1891, pour partiellement arbitraire quelle qu'elle soit, correspond à une étape nouvelle de la pensée de l'Église. À travers le pontificat de Léon XIII se profile la prise de conscience d'un nouveau rapport au monde, comme s'y venait alors se clore le contentieux entre l'Église et la société engendré par la Révolution française et que l'on voulait prendre acte des acquis des Lumières. Toutefois, il faut avouer d'emblée que cette manière de présenter les choses n'est que partiellement exacte et tend à nous faire croire que tout serait joué à ce moment-là. Or, il n'en est rien, et de nouvelles crises, la crise moderniste notamment, surviendront rapidement entre la société civile, l'État et l'Église catholique. Il suffit de plonger dans le texte même de Rerum Novarum pour constater la distance et éprouver un certain malaise face à une écriture et une conception du monde qui apparaissent quand même quelque peu datées. Les fondements ont toujours besoin d'actualisation pour porter du fruit, et plus spécialement en morale. Ceci nous indique d'ailleurs un principe important de lecture pour la DSE. Il nous faudra toujours chercher à resituer les documents dans leur contexte de conception, comprendre le monde de l'époque, connaître ses événements, et en second lieu, élucider les théologies sous-jacentes. Alors, un avertissement cependant, pour écarter une première difficulté. Pour nos auditeurs qui ne sont pas européens d'origine, peut-être pouvez-vous éprouver le sentiment désagréable que vos propres réalités historiques sont oubliées. Or, c'est exactement le cas à ce moment-là de l'histoire du monde, laquelle n'est qu'une histoire occidentale. La DSE et plus largement toute la réflexion de l'Église est très largement tributaire de ce qui se vit en Europe. Même si les États d'Amérique du Nord seront aussi rejoints, mais il y a aussi la dynamique colonialiste qui habite, voire obsède les Européens comme les Américains du XIXe siècle, en quête de suprématie commerciale et militaire, qui n'envisage absolument pas ce qui se vit outre-mer, si ce n'est qu'au titre de lieu à évangéliser et à civiliser. Il faudra ainsi quelques dizaines d'années pour que l'Église, en syntonie avec les sociétés civiles et les mouvements politiques, élargisse son regard grâce à Dieu. Rerum Novarum, donc, c'est un point de convergence et d'assimilation. Le pontificat de Léon XIII est fructueux en évolution et en nouveauté. D'ailleurs, Rerum Novarum entérine que des choses nouvelles se sont produites. Au-delà des mutations politiques radicales engendrées dans le mouvement de la Révolution française, il y a aussi des mutations socio-économiques et culturelles colossales. Les modes de vie, les us et coutumes, tout se trouve transformé. Le siècle des Lumières, dans sa version philosophique, tant anglaise que française ou germanique, met en marche une révolution des pensées qui vient interroger le rapport entre le religieux et le politique, qui porte l'accent sur ce que la Constitution française ressaisira par les mots de liberté, égalité, fraternité dans la dynamique des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Malgré de vives réactions de la plupart des milieux d'Église et de non moins rudes combats politiques, une certaine idée de l'homme se trouvait par là transmise, y compris par des philosophes se référant pleinement à la foi chrétienne. Mais il faut bien constater la défiance accrue des papes et autorité ecclésiale envers le pouvoir politique. Encore aujourd'hui d'ailleurs, ça peut être le cas. Si le pouvoir politique soutient l'idée que l'homme est autonome, il sera de ce fait sans référence nécessaire à Dieu, tenant sa place dans ce monde par lui-même. La liberté ainsi perçue est alors entendue par l'Église comme synonyme de licence et de relativisme moral. Elle met en péril la société et le pouvoir politique en invalidant l'ordre moral, d'autant plus que les idées des Lumières combattent le pouvoir ancestral de l'Église sur les consciences. Pour la foi chrétienne, l'ordre moral vient de Dieu et l'homme, riche ou pauvre, puissant ou sans voix, se doit de se soumettre en profitant de la vie temporelle pour gagner son ciel, travailler à son salut. L'idée de justice n'est touchée que par le biais de la vertu et ne comprend pas la dimension d'égalité mise en avant par la Révolution française, dont les idées, comme la mise en forme politique qui s'ensuivra avec la Première République, s'opposent diamétralement à la conception sociologique de l'Église. Pourtant, une première évolution novatrice se produit. Au cœur de cette stratégie visant à rétablir le pouvoir de l'Église sur les consciences et à restaurer l'ordre moral d'une société chrétienne hiérarchique, il y a la possibilité d'une reconnaissance partielle par l'État des autres cultes sous la forme d'une tolérance. Il faut entrevoir aussi ce qui se joue sur le plan économique et social, car les mutations de ce que l'on nomme la révolution industrielle touche en profondeur l'ensemble des personnes et des structures sociales. La société rurale implose sous l'effet des nouvelles formes de travail, par la mécanisation et surtout la massification, tous les deux orientés vers le rendement de sociétés devenues capitalistes. Favorisé par le développement des nouveaux moyens de transport, l'exode rural engendre un éclatement des structures familiales, entraînant le travail des femmes et des enfants. Avant, le travail des femmes et des enfants n'était pas absent, mais il restait principalement cantonné dans l'orbite familiale. Avec l'habitat urbain extrêmement précaire et une grande promiscuité, se multiplient les maux, maladies, épidémies, accidents du travail, prostitution, faute morale, avortement, manque d'éducation, délinquance, alcoolisme et violence, destruction de la vie sociale, familiale et personnelle, et un manque cruel d'adaptation des paroisses avec une chute de la participation au culte. L'Église a eu du mal à accompagner ces nouvelles réalités de vie et à y répondre de manière globale, en dépit de la charité active de prêtres, de religieux et de chrétiens laïcs. Le monde ouvrier a abandonné. D'autres réponses émergent pour répondre à ces carences patentes de la société et à la misère croissante, dont les diverses formes du socialisme. Rerum Novarum nommera un certain nombre de ces maux et fléaux et cherchera des solutions chrétiennes envisageables.